Alors, le titre de mon deuxième message de ma pensée d'aujourd'hui, c'est encore, encore et encore. Pour ceux qui prennent des notes, je ne sais pas si vous voulez que je le répète. Encore, encore, encore et encore. Ce qui nous montre une certaine fidélité, quoi, hein? Juste par le titre. Alors, on va tourner ensemble et on va lire. On va être dans le Nouveau Testament. Et on va regarder un épisode de la vie de Jésus avec ses disciples. Et c'est Jean 21, 1, jusqu'à 14. Alors, Jean 21, 1 à 14. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Ici, juste pour que vous puissiez comprendre le contexte, Jésus est mort, il est ressuscité, et puis là, c'est la troisième fois qu'il va apparaître à ses disciples. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Et lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur! » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre, très précis, hein, comme les Suisses, 153. Voilà, ce n'est pas une fourchette de poissons, ce n'est pas de 150 à 155, c'est 153. Pareil comme lorsque mon train arrive à 12h37. Voilà, précision suisse. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Une belle histoire, et on va découvrir quatre vérités au travers de cette histoire qui, j'espère, vont vous émerveiller comme cela a pu m'émerveiller lorsque le Seigneur m'a ouvert cette histoire, alors que ça fait plusieurs années de cela. Et voilà, on va la regarder ensemble. C'est un bel épisode de la vie de Jésus. Et je trouve qu'au travers de cet épisode, on découvre aussi le cœur du Père. Vous savez, si on veut apprendre à connaître qui Dieu est, on doit regarder à Jésus. Philippe, un des disciples de Jésus, un jour a dit quoi à Jésus? Il a dit, « Montre-nous le Père. » Et qu'est-ce que Jésus a répondu? « Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Donc, c'est très simple pour nous aujourd'hui. Si on veut davantage connaître comment Dieu est, qui Dieu est, il nous faut regarder au Fils. Il nous faut regarder. C'est pour ça que Jésus, je crois, est venu aussi vivre parmi nous pendant 33 ans et demi. Il aurait très bien pu juste descendre. Il y a le sacrifice, la croix, et après on remonte et tout est fini. Mais le cœur de Dieu était pas seulement pour qu'il puisse y avoir ce pardon des péchés, bien sûr, mais aussi pour qu'il puisse y avoir cette communion, qu'on puisse le connaître davantage. Et lorsqu'on regarde comment Jésus vivait, ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, où il était, il y a plein de choses qui nous révèlent le cœur du Père. Et si le cœur du Père nous est révélé dans cette histoire? Parce que Dieu et le Père ne font qu'un. C'est-à-dire, Jésus et Dieu ne font qu'un. Et je fais une petite parenthèse ici parce que je sais que peut-être pour certains, c'est compliqué à comprendre cette histoire de Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Moi, je sais que pendant longtemps, je ne sais pas, je n'arrivais pas à le comprendre. Et c'est à un certain moment donné, quelqu'un m'a donné cet exemple qui vient de la nature. Et c'est très bien parce que de toute façon, la Bible nous dit que la nature nous parle du Créateur, n'est-ce pas? Et je me souviens, la personne m'avait dit, mais c'est pas compliqué, tu prends le soleil. Le soleil, il n'y en a qu'un. J'ai dit, oui, je suis d'accord, il y a le soleil, voilà. Et le soleil, il est gros, il est immense, donc c'est Dieu. Je dis, OK. Le soleil a aussi cette lumière. Je dis, oui, c'est vrai. Donc, Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Et aussi, il envoie cette chaleur que l'on peut ressentir, qui est son esprit. Je dis, ah, là, il me sent, j'ai compris. D'accord, je sais que c'est possible. Donc, je ferme ma parenthèse de Trinité, mais juste pour vous dire que lorsqu'on regarde à Jésus, on apprend aussi qui est le Père, qui est Dieu. J'aimerais qu'on puisse regarder à quatre vérités ensemble. Et la première vérité qu'on voit dans ce texte, c'est tout simple, mais c'est très beau, c'est « Il veut se révéler ». Dieu veut se révéler et se manifester à nous, il veut se faire connaître. Pour lui, ce n'est pas « il faut que » et « je dois ». Ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation. Mais c'est un désir. C'est un désir de le faire, de se révéler à nous. Parce que quand on regarde dans le texte, dans Jean 21:1, ce que l'auteur écrit, c'est « Après cela, Jésus se manifesta de nouveau, une fois de plus. Il le fait encore. » Alors, il est vraiment désireux, voilà, d'être en ma présence. Il est vraiment désireux d'être auprès de nous, d'être avec nous. Et je crois que même pour nous, êtres humains, c'est même difficile à percevoir, à comprendre et même, je dirais, à accepter. Parce que souvent, il me semble qu'on se voit là et lui, il est là. Il y a cette espèce de barrière peut-être ici dans notre esprit. Mais c'est important de savoir que vraiment, il veut se manifester et c'est important que Dieu se manifeste à nous. C'est important qu'on ait ces expériences personnelles avec Jésus. Pourquoi? Parce que c'est cela qui nous amène à une amitié avec lui. D'avoir cette connaissance intellectuelle de Dieu est très limitée. Il faut qu'il y ait justement cette expérience avec Dieu. Parce que pour lui, c'est la limite. Ça ne le suffit pas et pour nous aussi, ça ne suffit pas. Je peux très bien vous dire, je connais le président de la France. Je sais son nom, je sais qui est sa femme, je sais où il habite, je connais même son emploi du temps, de quoi il va parler à la Chambre nationale. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais vraiment et que c'est mon ami, si j'ai jamais été en sa présence? Mais non. Donc, Sarkozy, je ne l'ai pas connu, mais je pourrais vous parler de Sarkozy. Et M. Hollande est là, le nouveau que nous avons, voilà. C'est la même chose aussi avec Jésus. De simplement avoir cette connaissance intellectuelle n'est pas assez pour lui et pour nous aussi. Donc, il cherche et il veut à tout prix se faire connaître à nous. Et ici, on le voit parmi les disciples. Il veut se faire connaître à notre esprit et à notre cœur. Vous savez, 3 ans auparavant, quand vous y pensez, 3 ans et demi auparavant, les disciples s'étaient retrouvés exactement dans la même situation. Ils étaient dans une barque. C'était la nuit. Ils n'avaient pas réussi à prendre 0 poisson. Ils n'avaient rien. Et c'est la première fois que c'est cette première fois-là que Jésus est allé vers eux. Il a fait ce qu'il a fait et par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. Il a dit à Pierre, suis-moi. Il a eu cet appel envers ses disciples. Il s'est approché de ses disciples et il leur a dit, suivez-moi, suis-moi. Mais ici, ce qui est important de réaliser pour nous, c'est qu'il y a un autre message aussi. Ce que Jésus est en train de révéler, de montrer par ses actions, c'est qu'il est en train de leur dire, je ne suis pas juste en train de vous dire et juste de vous dire que je vous ai demandé de me suivre. Je suis en train de vous montrer que je vous suis. Ça fait 3 fois que je vous apparais. Ça fait 3 fois que je me manifeste. Ça fait 3 fois que je vais là où vous êtes. Et souvent, on a cette facilité à vivre cette vie chrétienne un peu. Le sketch était parfait avec mon message. Parce que c'est « je vais pour Jésus, voilà, je vais le suivre, je, voilà. » Mais on oublie cette partie où on est très limité par nos propres forces et où, à vrai dire, la vie chrétienne, c'est de découvrir aussi que Jésus est là et qu'il nous suit. Il nous suit, il est là pour nous. Cette vérité nous amène à vivre notre relation avec Dieu d'une autre perspective. C'est pas juste « je suis appelée à le suivre », mais tout simplement, c'est qu'il m'aime et il me suit et il est avec moi. C'est très simple, mais lorsqu'on en prend conscience, lorsqu'on devient conscient de cela, on voit les choses tout à fait différemment. La deuxième chose qu'on voit dans ce texte, c'est ceci, c'est « il est le décideur de comment il va se révéler ». C'est lui qui va décider. On ne peut pas le provoquer, on ne peut pas l'inventer. Parce que l'auteur ici dit, voici comment il se manifesta. Donc, en un mot, c'est comme s'il était en train de dire, voici comment il a choisi. Cette fois-ci, il nous est apparu au bord du lac. L'autre fois d'avant, on était dans la chambre haute. L'autre fois, mais là, c'est comme ça. Il l'a choisi, c'était de son propre choix. Et ce que je trouve beau ici, c'est que Jésus a choisi une chose qui était très personnelle, entre lui et ses disciples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a été prêt à refaire pour la deuxième fois le même miracle qu'il avait fait la première fois qu'il les avait rencontrés. Pour Pierre, il avait fait la pêche miraculeuse et Jésus ne s'est pas lassé de refaire exactement le même miracle pour eux. Et vous savez, il aurait pu essayer de faire quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Il aurait pu peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus impressionnant, d'un petit peu plus spectaculaire, mais non parce que son but, le but qu'il voulait atteindre, c'est que je veux que mes disciples, que mes enfants, que ceux que j'aime puissent me reconnaître. Ils ont besoin de me reconnaître. Je ne sais pas si vous avez des moments, des fois, dans votre vie où vous vous dites, « Ah ça, je sais que c'est Dieu qui est en train d'agir. Ça, c'est lui qui est en train de faire quelque chose. » Parce que c'est quelque chose de personnel entre vous et lui. Et son cœur à Jésus ici qu'on voit, et le cœur de Dieu qui est révélé ici dans cette histoire, c'est « Je me souviens de la première fois qu'on s'est rencontrés. » C'est tellement beau. C'est qu'il est en train de révéler « J'ai pas oublié la première fois que je vous ai appelé, que je t'ai appelé, Simon-Pierre. » Et Jésus le rappelle, à vrai dire, qu'il se souvient. Et ça me fait penser un petit peu à moi. Moi, je me souviens très bien la première fois que mon mari m'a fait sa déclaration d'amour. Je me souviens où on était. Il faisait moins 20, on était au Canada. Il était, je pense, 19h, faisait noir dehors. On était dans une voiture Bourgogne, une Ford. Je m'en souviens très bien où j'étais, quel manteau il avait et comment il m'a regardé. Il a pris ma main. Il m'a dit, je t'aime. Voilà. Mais je m'en souviens très bien. Et ici, on dirait qu'il y a comme cette histoire un peu d'amour entre Jésus et ses disciples et qui veut tout simplement dire « je me souviens la première fois que je t'ai appelé, je ne l'ai jamais oublié et l'invitation tient encore et je t'invite et je pense encore à toi et je t'aime encore et j'ai encore un appel pour toi et j'ai encore un avenir pour toi. » C'est ça qui est beau, c'est vraiment une histoire d'amour, c'est vraiment une histoire de proximité. Il est écrit que Jésus se manifestait à nouveau. Tout est à propos de lui. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et il est vraiment désireux, tout simplement, de nous aider, de nous guider. Ici, on le voit, Jésus les aide. Il leur dit, « Ah, mais mettez votre filet à droite. » Et on voit qu'il y a sa puissance qui est relâchée pour pouvoir les aider dans le domaine qu'ils sont, dans le besoin qu'ils ont à ce moment précis-là. Ici, ce n'est pas à propos de Jésus qui veut montrer sa puissance, ses stratégies, ses capacités, mais son but, c'est qu'il puisse le reconnaître et ça a marché. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Jean, il a dit, « Hey, c'est le Seigneur. Je sais comment il agit. Je sais ce qu'il fait. Je suis capable de discerner parce que je le connais. » Donc, et ça a marché. Ça a très bien fonctionné parce que Pierre s'est jeté à l'eau. Il a dit, « Oui, je vais vers le Seigneur. » Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça, aujourd'hui? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? On est en 2018, Justine, je n'ai pas de barque, je ne vais pas sur le lac Léman faire une pêche miraculeuse, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Cette barque, lorsqu'on regarde, c'était le quotidien pour les disciples. Ils étaient retournés à leur quotidien, tout simplement. C'était, la plupart d'entre eux étaient des pêcheurs. Ils sont retournés au boulot. Ils sont retournés à leur façon de pouvoir s'alimenter, de vivre, de répondre à leurs besoins. Et cette barque peut représenter aussi pour nous, tout simplement, notre quotidien. Et lorsqu'on pense au quotidien, eh bien, ben, c'est quoi? C'est métro, boulot, dodo? Bon, peut-être pas ici, il n'y a pas de métro hein, ici, mais bon, voiture, boulot, dodo. C'est un peu, je dirais, le quotidien, c'est les choses qui sont prévisibles. Hein? C'est un lieu qu'on connaît assez bien, qu'on est même capable, on est capable de diriger, on est capable de contrôler notre quotidien, on est capable de le gérer. C'est un lieu ordinaire, banal, normal, et c'est un endroit où on ne s'attend pas vraiment à avoir un rendez-vous divin avec Dieu. C'est pas comme, oh, je vais à l'église ou je vais une journée entre elles, je sais, je m'attends à Dieu, Dieu, il va, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, je m'attends à ce qu'il me parle. Non, c'est le quotidien, c'est tout simple. Et la parole que je crois que Dieu a pour vous aujourd'hui, qui m'a donnée pour moi, au travers de cette histoire, c'est celle-ci, c'est que il m'a dit, et je crois qu'il vous dit, ne me limite pas dans ma manière de me manifester et de me révéler à toi. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on confine Dieu parce qu'on s'attend à lui. Dieu se révèle lorsqu'on s'attend à lui. Mais on s'attend à lui dans des moments bien précis et d'autres moments, eh bien, c'est mon quotidien, c'est mes choses, j'ai des trucs à faire, n'est-ce pas? Et ici, ce qui est beau, c'est qu'on n'a pas à essayer de reproduire par nos propres forces des expériences avec lui. Parce que parfois, on a vécu des expériences dans le passé et on voudrait donc les revivre. On n'est pas appelé à les forcer, à les inventer, à essayer. Ou parfois, on lit même des choses dans la parole de Dieu, des hommes de Dieu, des femmes qui ont vécu des choses et on se dit, oh, moi aussi, je veux les vivre. On pense à Moïse, on pense à plein d'autres personnes. Mais Dieu est Dieu, et Dieu est grand. Et Dieu sait exactement ce que nous avons de besoin. Et lorsqu'on regarde, c'est vrai que la Bible, elle est inspirante parce qu'on voit Moïse qui a eu son buisson ardent. On voit Paul, son chemin de Damas. On voit la Samaritaine, très, très bénie cette femme, qui a eu son tête-à-tête, son cœur à cœur avec Jésus. Il était rare à l'époque que Jésus se retrouvait seul. Jésus, la plupart du temps, était soit entouré de ses disciples, soit qu'il était entouré d'une foule. Ou soit il était peut-être 3 heures du matin, il était dans le désert et il pouvait prier, être seul. Mais là, en plein jour, en plein midi, de se retrouver seul au bord d'un puits, c'était, elle a eu un rendez-vous extraordinaire, cette femme. Les disciples étaient partis à la Migros chercher un peu de ravitaillement, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'ils ont rencontré notre sœur qui avait 50 ans de fidélité. Mais une chose qui m'a attirée dans tout ça, lorsqu'on regarde à Moïse, à Paul, à certains disciples, à la Samaritaine, c'est qu'ils ont eu cette expérience avec Jésus, mais ils étaient dans leur quotidien. Ils n'étaient pas au temple, ils n'étaient pas dans une synagogue. Pierre a eu ce cœur à cœur avec Jésus en plein dans sa barque. Moïse, il était berger, il était en train de paître ses troupeaux, tout simplement. Et il y a eu son buisson ardent, il y a eu son appel, il y a eu cette... Oh, il a appris à connaître qui était le Dieu de ses ancêtres. La même chose pour Paul. Paul était en plein travail, même si son travail n'était vraiment pas bon parce que c'était pour aller persécuter des chrétiens, mais il s'en allait à un rendez-vous. Il avait organisé, c'était le pharisien des pharisiens, et puis voilà, il s'en allait dans la ville qu'il devait aller. La Samaritaine, il n'y a rien de plus banal qu'aller chercher de l'eau, franchement. Nous, on ne sait pas c'est quoi parce qu'on ne le vit pas, mais à tous les jours, la femme devait aller chercher de l'eau pour pouvoir laver, pour pouvoir voilà, faire à manger, faire ce qu'elle doit faire. C'est un peu comme vous, si vous allez à la Migros, aller acheter votre eau, vos trucs, votre nourriture, vous n'allez pas vous attendre nécessairement à avoir un rendez-vous divin ou quelque chose que Dieu va vous parler ou va vous interpeller ou vous toucher là. Non, parce que voilà, c'est « je m'en vais à la Migros ». Et la Samaritaine, c'est ben, « je m'en vais à mon puits », comme à tous les jours. Mais c'est là qu'ils ont vécu leur moment. Et j'aimerais tout simplement vous dire que Dieu a des buissons ardents pour nous. Pas une vie à tous les jours, Mais il y a des moments, je crois, selon les tournants dans nos vies, selon les saisons, selon ce que l'on vit, il veut s'adresser à nous et on en a besoin. Et moi, je peux vous dire que j'en ai vécu plusieurs fois et je me souviens très bien où j'étais. J'en ai plusieurs. Et j'aimerais vous raconter juste un des moments que j'ai vécu à un certain moment donné et ça s'est passé en Suisse. Donc, vous allez dire, oui, Dieu est en Suisse, on le sait. C'est pour ça. Mais tout simplement, juste pour vous dire, j'ai vécu un moment avec Dieu que je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout. Il y a à peu près un bon 7-8 ans, à peu près même 9 ans peut-être. On était invités chez une famille qu'on aime beaucoup, mais c'était la première fois qu'on allait chez eux, donc on ne se connaissait pas trop, c'était pour le temps des fêtes. Et j'avais remarqué, moi j'aime beaucoup les chandelles, les bougies, j'aime beaucoup ce qui sent bon. Et quand je suis rentrée dans cette maison, ce qui venait, c'était l'odeur. Je me suis dit, ah mince, ça sent bon ici, mais c'est quoi cette... Et il y avait des petites bougies allumées un peu partout. Et discrètement, je me suis mis à regarder, voilà, les bougies, les sentir. Et je vois la marque de la bougie, tout ça. Je me dis, oh, c'est chouette, cette marque et tout. Et puis voilà, on passe à autre chose. Et la dame de la maison me dit, ça vous dirait de faire les marchés de Noël? Je dis, ah oui, ça c'est très européen, on a passé au Canada. Donc, on fait le marché de Noël dans sa ville à elle et on se balade et tout ça. Et à un certain moment donné, il y a une rue piétonne, il y a des vitrines, il y a le marché de Noël et tout ça. Et mes filles me disent, ah, on va dans ce magasin, c'est une papeterie, elles aiment beaucoup tous les petits cahiers, les petits crayons, vous savez, les trucs de filles. Et je vois dans la vitrine la bougie, la marque, quoi. Je me dis, oh, c'est chouette. Et je me dis, oh, mais peut-être que je pourrais me l'offrir en cadeau de Noël, voilà. Mais vous savez, à l'époque, on vivait par la foi. Et on vivait une semaine à la fois. Donc, mon mari était invité dans des églises et on ne savait jamais nécessairement ce qu'on était pour recevoir. Voilà, c'était vraiment particulier. Donc, je n'avais pas un immense budget. Et je me suis dit, une petite bougie, voilà, ça sera bon, ça va sentir bon dans la maison. Et donc, j'arrive et pendant que tout le monde regarde les autres choses, je me dis, tiens, je vais regarder la bougie. Donc, je regarde la bougie, je me dis, oh, trop chouette. Et je regarde le prix en dessous et la vie en Suisse est plus chère qu'en France. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc, donc je regarde et je vois le prix. Je me dis, oh là, non, c'est pas pour moi. Je vois 60 francs une bougie. Je me suis dit, oh là, je vais brûler mon budget par les deux bouts. Je peux pas me le permettre. Donc, je la laisse là et je me dis, bah, c'est pas grave, c'est qu'une bougie. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas une nécessité. Je peux vivre sans bougie, n'est-ce pas? Et on revient à la maison et la dame de la maison me dit, ce soir, il y a de la famille qui va venir. On a pensé que ce serait bien qu'on se retrouve avec vous, qu'on puisse partager la parole, tout ça. Oui, oui, alors il n'y a pas de problème. Donc, les gens arrivent et une membre de sa famille arrive et on est là, tout simplement dans l'entrée. Et je vois cette dame qui arrive avec un joli sac, avec la marque de la bougie. Et elle s'approche vers moi et elle me dit... « Madame Robichaud, je ne sais pas si vous aimez les bougies, mais elle dit, j'ai eu à cœur de vous offrir une bougie. » Et c'était la bougie, la senteur que j'avais sentie auparavant, quelques heures avant. Et là, elle ne savait pas, parce qu'elle ne s'attendait pas à une réaction, voilà, on donne une bougie, on dit merci, c'est tout. Mais moi, ça a été comme un film. J'ai eu l'impression que j'ai eu un regard du ciel, de la part de Dieu. Et pour moi, ça voulait dire beaucoup, parce que je n'ai pas eu de père. J'ai connu mon père biologique à l'âge de 15 ans. Donc, d'avoir un homme dans ma vie qui serait là pour pourvoir à mes besoins ou pour me faire plaisir, je ne sais pas c'est quoi. Et longtemps, j'ai eu la facilité d'avoir cette amitié avec Jésus. C'est-à-dire que Jésus, c'est mon bon ami. Mais d'avoir cette relation, Dieu, le Père, c'était trop compliqué. Mais là, tout ça avec une bougie dans une entrée, dans une maison, je vis ce moment et je vois, c'est comme si Dieu m'avait dit, « Ah, tu sais, t'es ma fille, et je t'ai vue cet après-midi, j'ai vu que c'est ça que tu aimais et que c'était celle-là. » Et ça m'a tellement touchée. Et je me suis mis naturellement à penser à mes enfants parce que je fais la même chose à Noël. Je les amène dans un magasin de jouets, je regarde ce qu'elles aiment le plus. Je dis à mon mari, oui, c'est la poupée, nanana, c'est la Barbie comme ça, et c'est le Playmobil, machin. On prend note, on achète plus tard et on leur donne. Et j'ai senti que c'est comme si Dieu avait fait la même chose. Et ça m'a tellement touchée. Et ça a comme été un clin d'œil de la paternité de Dieu. J'ai découvert, j'étais déjà dans un cheminement où je connaissais la paternité de Dieu, c'est-à-dire qu'il va pourvoir à mes besoins, ça je le savais parce qu'il me le prouvait semaine après semaine. Mais c'était des besoins qui étaient légitimes et nécessaires. Mais de découvrir un Dieu qui veut aussi me faire plaisir et qui va m'offrir quelque chose dont j'ai absolument pas besoin, c'était tout à fait nouveau pour moi. Et plus tard, même souvent, Dieu a réutilisé. Parce que, par la grâce de Dieu, je recevais cette bougie pratiquement à chaque année. Et à un moment donné, je me souviens, on vivait un moment assez intense concernant la foi financière pour cette foi-là. Il y a eu différentes choses. Notre foi a été bien exercée sur plein de sujets. Mais je me souviens, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, et j'étais inquiète et je me disais, « Oh, mais Seigneur, comment on va faire et tout ça? » Et le Seigneur m'a dit, « Justine, regarde tes tables de chevet. » Donc, je regarde mes tables de chevet. Qu'est-ce que je vois sur chacune des tables de chevet? Une bougie. Bougie que je ne peux pas me payer, que je ne peux pas m'offrir. Et Dieu m'a dit, si je t'ai donné des bougies qui ne sont pas une nécessité, ne crois-tu pas que je vais pourvoir pour ce qui est nécessaire et important? Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Ce sont des petits moments, mais c'est mes moments de barque et de quotidien à moi. Où Dieu utilise, bien sûr, sa parole, mais où aussi il s'ingère et il me montre qu'il me connaît tellement qu'il sait comment parler mon langage. Il connaît ma pédagogie. Pour vous, ça pourrait absolument rien dire. Je vous donnerai une bougie, puis... Hey, mais pour moi, ça a fait un truc incroyable. Et j'ai d'autres petits moments aussi comme ça. Je ne vais pas tous les raconter parce que je ne suis pas ici pour parler de moi. Mais c'est pour vous donner juste un exemple, tout simplement concret, d'un moment de ce que j'appelle qui peut être un buisson ardent, que ce soit pour un appel à le servir ou que ce soit un encouragement pour un moment difficile qu'on vit dans notre vie. David Wilkerson, que j'ai mentionné tout à l'heure, j'apprécie beaucoup son ministère, a dit ceci parce que c'est un homme qui a beaucoup entendu la voix de Dieu, mais il a dit ceci, « J'ai plus confiance dans la capacité de Dieu de me parler et de se faire entendre à moi que ma propre capacité d'entendre sa voix. » Et souvent, c'est là notre inquiétude. « Ah, Seigneur, est-ce que je t'ai bien entendu? Est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que je vais dans le bon chemin? » On a plein de choses comme ça. Et puis, savez-vous quoi? Je veux, comme cet homme, avoir la confiance dans la capacité de Dieu qu'il sait comment me parler et qu'il sait comment se faire entendre. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il nous aime. Donc, on vient de voir deux points. Je vais voir si vous me suivez bien, si vous n'êtes pas trop en digestion. Le premier point, c'était quoi? C'est « Il veut se révéler ». Le deuxième point, c'est « Il est le décideur de comment il va se révéler ». Et le troisième point, c'est « Il prépare son rendez-vous ». Parce que, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit « Venez déjeuner ». Voilà l'invitation que Jésus leur a faite. Dans le texte, il est écrit, Jésus leur dit « Venez déjeuner ». Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Donc, Jésus ne va pas leur servir les poissons qu'eux ont pêchés, mais il a déjà cuisiné, tout préparé, c'est là, c'est sur les feux de braise, le pain et le poisson. Et moi, ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est qu'il y a deux poissons. Il y a deux sortes de poissons ici. La première, ce sont ces poissons que je dirais du miraculeux. Ce sont les poissons aussi de leur travail, de leur service pour Dieu, qui pourraient représenter notre service, ce qu'on fait pour Dieu, ce qu'on aime donner à Dieu. Mais c'est de très bons poissons. Le service pour Dieu est très important. Et souvent, on voit même la bénédiction de Dieu dans ça parce qu'on voit sa provision, on voit sa direction, comment il nous dirige, on voit le miraculeux de comment il intervient lorsqu'on le sert. Mais ici, Jésus est en train de montrer que cela ne peut pas nous suffire. Ce n'est pas assez. Il a quelque chose qui vient directement de lui, que seulement lui a préparé pour nous. Et tout service que l'on fait pour lui ne peut pas être une nourriture sur laquelle notre foi et notre amitié avec lui va grandir. La preuve, c'est que les disciples avaient été avec lui pendant 24 heures sur 24, pendant 3 ans et demi. Aussi, ils avaient vu tous les miracles inimaginables qu'on peut lire. Mais Jésus savait qu'ils avaient besoin d'un miracle personnel pour eux qui venait directement de lui que pour eux. C'était quelque chose de vraiment de personnel. Et ici, Jésus a une révélation de lui seul, de qui il est, et il veut t'inviter à te nourrir. Il veut te nourrir. C'est beau parce que c'est dit que Jésus donna à chacun. Donc, c'est très touchant. Donc, si on regarde les 3 points de cette histoire, 1, c'est il veut quoi? Il veut se révéler, s'adresser à nous. 2, il est le décideur de comment, du comment il va le faire. Et 3, il prépare son rendez-vous parce qu'il nous aime tant. Et 4, qui est mon dernier point, le dernier point de cette histoire, c'est qu'il est celui qui le donne et qui le fera. Parce qu'ici, les disciples n'ont pas eu à préparer leur nourriture. Ils sont sortis de la barque et tout était déjà prêt. Et c'est beau parce que Jésus a voulu en faire cuire plus, je crois. Et Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il va dire à ses disciples, « Allez chercher les poissons que vous avez pris. » Et entre vous et moi, c'est Jésus qui avait fait que tous les poissons viennent dans leur filet, n'est-ce pas? Ils avaient eu beaucoup d'aide. Mais Jésus reconnaît très bien ce qu'ils font. Et c'est pareil pour nous aussi. Jésus connaît très bien ce que nous faisons pour lui, il le reconnaît et il est prêt même à nous donner tout le crédit pour. Mais il y a vraiment quelque chose qui peut venir seulement que de lui, qui est important pour lui à nous donner. Vous savez, je dis ça, Jésus ici, ça dit qu'il a pris, il prend le poisson, il prend le pain et leur donne. Jésus n'a jamais dit « servez-vous ». Il n'a jamais dit « Essayez de venir chercher quelque chose. » Il était là et à chacun d'entre eux, il a servi un pain et un poisson. Et parfois, on peut rentrer justement dans ce piège d'essayer d'obtenir une révélation de lui ou de forcer quelque chose, de chercher une nourriture pour notre âme. On se brise, mais on se complique les choses dans la tête. Et moi, je veux vous dire, Dieu nous aime tellement qu'il faut être simple. Et vous savez, il a quelque chose de préparé pour vous et il va vous le donner dans le lieu secret. La seule chose qu'il nous faut, c'est de le désirer, tout simplement. Vous savez, moi, quand j'ai eu ce message-là, je n'apportais pas vraiment plus que ça la parole aux femmes. Je n'étais pas, parce que c'est mon appel. Il y a plein de messages même que j'apporte aujourd'hui que j'ai reçus il y a 10 ans, il y a 15 ans, alors que j'étais maman au foyer à temps plein, mais que Dieu m'ouvrait les Écritures, que j'en pleurais, que j'étais touchée, que ça me transformait, que ça me changeait, que ça me... Donc, parfois, on est là, je sais parce que j'ai été là. On est assis sur cette chaise, on écoute cette dame en avant, puis on se dit, « Oh, j'aimerais ça, voir toutes les choses qu'elle voit et les choses qu'elle vit. C'est juste merveilleux, pourquoi j'y arrive pas? » Mais je sais c'est quoi, parce que parfois je me retrouve exactement à la même place où vous êtes. Je suis ici en bas et j'écoute quelqu'un. Mais je peux vous dire, c'est vraiment possible. Dieu veut le faire. Tout ce qu'il faut, moi, chaque fois que Dieu s'est révélé, chaque fois que Dieu m'a ouvert les Écritures, j'étais dans le lieu secret avec lui et je me disais, je venais telle que je suis, transparente. Parfois, je ne parlais pas, parfois, je pleurais, parfois, je disais, je ne comprends pas. Et j'ouvrais la Bible, je lisais, et Dieu venait m'ouvrir ses Écritures. Parfois, c'était sur le moment même, parfois, c'était plus tard. Mais il est fidèle. Et comme il m'a parlé, comme il m'ouvre ses Écritures à moi, il veut le faire à chacune d'entre vous. Vous en avez besoin pour aller plus loin avec lui. Et pour lui, il en a besoin aussi, parce que c'est ça de l'amitié. Être chrétien, c'est d'avoir cette communion, c'est d'être dans cette amitié avec Jésus. Et une amitié veut dire que j'ai peur. C'est pas un monologue où moi, je viens, je parle et j'ai fini, je ferme ma Bible et je m'en vais. C'est qu'il peut me parler aussi. Et il faut qu'il nous parle, parce que c'est quand il nous parle qu'on change. Dieu a créé toute la planète en parlant. Donc, c'est pour ça que sa parole est ultra importante. Sa parole, c'est ses mains, c'est ses bras, c'est ses pieds, c'est sa façon d'agir. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Et mon désir, c'est tout simplement que vous puissiez avoir cette foi toute simple d'un enfant, dire « Seigneur, tu vas me parler moi aussi. » Et « Seigneur, je crois que tu as des rendez-vous divins avec moi. J'ai des moments de buisson que tu es en train de me préparer. Je ne sais pas ce sera quand, mais j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton amour. Ah. » La vraie vie chrétienne, c'est une vie où l'on comprend ceci. Jésus nous invite à nous appeler et il nous appelle à recevoir parce qu'il a tant donné. C'est une vie pas où je produis, pas où j'essaie de gagner, d'obtenir, de faire, de mériter, un peu comme, exactement comme le sketch, mais c'est une vie où je reçois. Pourquoi? Pourquoi c'est une vie où je reçois? Parce que Dieu donne. Le verset que vous connaissez probablement très bien, le plus classique, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. » Il donne, alors nous, on est appelés à faire quoi? À recevoir. Bien sûr, on va donner aussi notre louange et tout ça, mais aussi, on est appelés à recevoir. Un homme de Dieu que j'aime bien a dit ceci un jour, « Le chrétien le plus remarquable n'est pas celui qui aura accompli le plus pour Dieu, mais c'est celui qui aura reçu le plus de Dieu. » Le chrétien le plus remarquable, ce n'est pas celui qui aura accompli le plus pour Dieu, mais c'est celui qui aura reçu le plus de la part de Dieu. Maintenant, on doit se poser la question et se dire, qu'est-ce que je reçois de Dieu? C'est quand la dernière fois que j'ai reçu de la part de Dieu? Et est-ce que je crois que je peux recevoir de Dieu? Et est-ce que je veux recevoir de la part de Dieu? Tout est là. C'est bon de s'arrêter et de se poser la question parce qu'on fait face à la réalité, à où nous en sommes vraiment. Sinon, on peut juste continuer la vie chrétienne exactement comme cette madame qui faisait son footing avec tous les versets qu'elle connaît par cœur. « Je puis tout par celui qui me fortifie, j'ai une épreuve. Ô Seigneur, tu es avec moi. » Et on continue et on continue. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas de rabâcher des versets par cœur, mais c'est vraiment d'avoir ce vécu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je veux vraiment avoir cette vie où je vais raconter davantage ce que Dieu fait pour moi, ce que je reçois de lui. J'ai trop aimé, franchement, le sketch. Il m'a beaucoup parlé. Je reviens, ça fait 3 fois que je reviens avec ce sketch. Il m'a beaucoup parlé parce que ça m'a fait penser à moi quand je suis arrivée en France. Quand le Seigneur nous a dit, « Allez, vous quittez tout, vous venez, vous partez en France par la foi missionnaire. » Eh bien, j'étais comme ça. Je courais. Et là, « Seigneur, je vais travailler pour toi. On va toucher la France. » Et voilà. Et à un moment donné, je me suis retrouvée parce que je fais du footing. Dieu nous a amenés à vivre en plein milieu d'un bled perdu, entouré de champs. J'étais en ville, à Longueuil, Montréal, tout ça, au Canada. Et là, j'atterris en Bourgogne, dans un lieu-dit. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un lieu-dit. C'est un lieu... Il est tellement petit, ce lieu-dit, qu'il n'y a pas de nom de rue. Il n'y a pas de numéro sur votre porte. C'est un lieu-dit. Voilà. Là... C'est un lieu, voilà, un lieu dit. Et je me souviens, quand on a eu cet endroit pour vivre, parce qu'on est arrivé, on n'avait pas de CDI, de contrat, de travail indéterminé, on n'avait pas de CDD non plus. Et ce n'est pas évident de dire à l'agent immobilier, « Non, mais faites-nous confiance, Dieu va pourvoir. » Oui, mais moi, je veux regarder les chiffres, madame. Il y a combien qui rentrent régulièrement? Voilà. On avait une certaine sécurité, on avait quand même vendu notre maison au Canada et tout ça, mais eux, ils voulaient quand même des preuves. Et on n'a seulement qu'un agent qui nous a accepté pour aller dans une maison, Et c'était la seule qui était en plein milieu d'un champ, dans ce lieu dit. Et je me souviens, avec mon mari, je pleurais dans la voiture. J'ai dit non, j'ai dit, moi, je ne veux pas déménager ici. Et mon mari m'a dit, tu réalises, si on leur dit non, notre lieu pour vivre, c'est la voiture. C'est la seule chose dont on est propriétaire, c'est notre voiture. Et quand on était arrivé de la France, du Canada, pendant 3 semaines, on a été logés à des endroits, tout ça, le temps de se trouver une place. Et il m'a dit, et moi, je ne voulais pas, pourquoi? Parce que je me disais, il n'y a pas de shopping à faire ici, il n'y a même pas de car qui passe, il n'y a rien, je vais être perdue, voilà, en plein milieu des champs. Et laissez-moi vous dire que ça m'a beaucoup travaillé parce qu'on a quitté la famille, on a quitté notre église, notre poste à l'église, notre identité, ce qu'on était. Là, mon mari était pasteur itinérant. Il allait d'église en église, mais il n'y avait pas vraiment de comité, de gens avec qui on travaille. On recommence à zéro. Et je me souviens, j'avais dit, Seigneur, je viens en France pour travailler pour toi. Et des mois plus tard, je me retrouve à faire mon footing. Et je cours dans les champs, c'est très vallonné comme ça, et je pleure. Et je dis, Seigneur, je pensais que j'étais venue travailler pour toi. Je perds mon temps, je fais quoi là? Je suis utile, absolument rien. Et il y a une petite voix qui m'a parlé. Et je sais que c'est Dieu. Et Dieu m'a dit, je sais que tu veux travailler pour moi. Mais moi, premièrement, ce que j'ai besoin, c'est de travailler en toi. Parce que si je peux travailler en toi et changer ta mentalité, eh bien, je vais pouvoir travailler au travers toi après. Après, tu auras quelque chose à dire, Justine. Ça sera plus seulement que de la connaissance, et puis c'est donc beau et ce serait donc bien une théorie, une théologie, mais ça va être du vécu. Donc, pendant plusieurs années, j'ai macéré dans le vécu, dans le laboratoire. Mais j'ai tellement appris de la part de Dieu et je suis tellement reconnaissante parce que je ne suis plus la même femme que j'étais il y a 12 ans. Et merci Seigneur. Il y a eu un cheminement, il y a eu des très grandes bénédictions. Il y a eu aussi des moments pareils comme lorsqu'on a lu le juste a beaucoup parfois de malheur, c'est vrai, mais l'Éternel chaque fois le délivre, c'est vrai. Mais Dieu utilise tout. Et c'est tellement beau. Alors, il y a une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui dans cette histoire, c'est que cette vie est pour tous. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour les disciples, c'est pas juste pour un tel, c'est vraiment pour chacune d'entre nous. C'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour chacune d'entre nous. Et c'est pas juste pour les élites spirituelles, voilà, qui ont tout compris, qui ont fait l'école biblique, ou pour les pasteurs, ou les femmes de pasteurs qui sont pasteurisées. Moi, c'est ce que je suis, pasteurisée. Mais c'est pour chacune d'entre nous. C'est pour tous. Jésus a une révélation de lui, exactement, faite sur mesure, juste pour toi, pour ton besoin, pour là où tu en es. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui se trouvait dans cette barque? Des hommes bien différents. Avec un arrière-plan bien différent, avec des circonstances et un vécu différent, et avec une expérience et une proximité avec Jésus très différente aussi. Il y avait Thomas, qui est celui qui était un peu incrédule, qui avait de la difficulté à croire. Mais pourtant, Jésus avait quand même un pain et un poisson pour lui. Il y avait Pierre, qui venait de le renier, qui n'était peut-être pas l'exemple, waouh, le super TTTTS, le très, très, très spirituel. Mais Jésus avait un pain et un poisson pour lui. Il y avait aussi le disciple que Jésus aimait, Jean. Et Jean, moi, vous savez, longtemps j'ai lu ce disciple que Jésus aimait et ça, oh, je ne sais pas, je me disais, mais il se prend pour qui, lui? C'est comme si moi, je suis l'élu, le choyé, je sais, voilà, Jésus m'aime, moi, moins les autres disciples, mais moi, c'est l'impression que j'avais quand je le lisais. Je me disais, est-ce qu'il y a des chouchous? Est-ce qu'il veut, il veut me rendre jalouse? Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Mais à un moment donné, dans la prière, le Seigneur m'a ouvert les yeux, il m'a dit, non, c'est pas qu'il était mieux que les autres, c'est pas que je l'aimais plus que les autres, c'est que lui, il se savait, par exemple, aimer. Et il fixait sa vie sur ce point-là. Je suis aimée. Et Dieu nous appelle à vivre notre vie, notre relation avec lui, exactement comme Jean, le disciple que Jésus aime. Je suis la fille que Jésus aime. Je suis la fille de Dieu que Dieu aime. Donc, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que c'est pour chacun. Parce que chaque personne qui se trouve dans cette barque sont tous différents. Mais Jésus les appelle et se manifeste à eux et a un rendez-vous divin avec eux. Vous savez, ça a été la troisième fois que Jésus se manifesta. Et c'est beau parce que combien de fois Pierre a renié Jésus? Trois fois. Et je pense que s'il l'aurait fait quatre fois, cinq fois ou six fois, bien Jésus se serait manifesté s'il le fallait, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Parce qu'il ne se lasse pas. Sa fidélité, c'est qu'il est là encore et encore et encore. Voilà. C'est la pensée que j'avais pour vous cet après-midi. Donc, j'espère que vous allez même retourner à ce texte. Je vous défie. Retournez à ce texte dans la prière et je suis certaine que vous allez sortir des perles que moi, je n'ai même pas vues encore, que Dieu a juste pour vous. Encore et encore et encore. On va prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Merci parce que, encore aujourd'hui, tu te révèles et tu te manifestes à nous et c'est pour ça que nous sommes ici en ce lieu. C'est parce qu'un jour, nous avons vécu un tournant. Mais Seigneur, tu sais qu'une fois, ce n'est pas assez. C'est pour ça qu'auprès de tes disciples, ça a été encore et encore et encore. Et c'est pour ça que même l'apôtre Paul, dans ta parole, le dit combien de fois tu t'es révélé et manifesté à lui. Et nous avons soif de cette vie. Nous voulons que ce message devienne une réalité. Seigneur, nous prions, Seigneur, qu'on puisse passer de la connaissance à l'expérience avec toi cette année. Merci pour ces 30 ans de conférences entre elles. Mais Seigneur, on veut aussi aller dans cette dimension plus loin et plus personnelle avec toi. Merci parce que tu nous rencontres aujourd'hui, tu viens à nous aujourd'hui, mais aussi tu seras fidèle et tu le feras au courant de cette semaine, pendant le mois, pendant l'année qui vient, au moment où on en a de besoin. Nous avons confiance que tu vas nous forger une oreille. On te donne notre cœur, Seigneur, et je prie, donne des yeux à notre cœur et donne des oreilles à notre cœur pour te voir et pour t'entendre. Merci, Seigneur Jésus. Amen.